Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Nelson Mandela est vraiment un mythe et le business tente à en abuser. Reportage dans un instant à l'occasion des 94 ans de Madiba. Au micro Fréjus Kenom, je suis dans ce studio avec Marie-Ange Piron qui a préparé la revue des sujets africains parue cette semaine dans la presse allemande. Marie-Ange, bonjour.
Bonjour Fréjus.
Et quels sujets ont donc retenu votre attention cette semaine ?
Eh bien là, c'est une Sud-Africaine qui a surtout retenu l'attention des journaux, c'est Nkosi Zana Dlamini-Zuma, la nouvelle présidente donc de la Commission de l'Union africaine. Et puis, il sera question aussi de deux gros dossiers qui l'attendent, justement le Mali et le Soudan.
Voilà pour le sommaire d'Afrique 7 jours. Bienvenue à tous. Il y a 94 ans et 22 ans après sa libération, le mythe Mandela est toujours aussi fort. L'homme qui a passé 27 ans en prison rassemble toujours et fait rêver. Tout ce que touche le prix Nobel de la paix vaut de l'or. Si l'Afrique du Sud a été le premier pays africain à obtenir l'organisation du Mondial de football, c'est certainement la présence de Madiba aux côtés des autorités sud-africaines qui a joué un rôle majeur. Du coup, aussi les produits à l'effigie du héros de la lutte anti-apartheid se multiplient. À Johannesburg, le reportage de Sophie Ripstein.
Dans une boutique à la mode de Johannesburg, Zanele vend depuis plusieurs années des t-shirts à l'effigie de Mandela. Le visage de l'ancien président apparaît stylisé en différentes couleurs vives. Mandela, c'est une tendance hors du temps.
Nous avons deux types de dessins de Mandela sur nos t-shirts. Le visage de Mandela déjà assez âgé et le Mandela jeune, quand il avait une coupe de cheveux avec une raie au milieu. Mais je crois que les gens préfèrent le vieux Madiba.
Devant l'ancienne maison de Mandela, rue Vilakazi à Soweto, c'est Sichlé qui vend là des souvenirs. Selon ce jeune marchand, la marque et l'image du héros de la lutte anti-apartheid peuvent rapporter gros.
C'est une icône, tout le monde le respecte. Alors je ne verrais pas pourquoi ça poserait problème de vendre des produits dérivés sur lesquels on voit Madiba. On montre juste au monde entier combien on l'apprécie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et à l'occasion de son anniversaire, c'est là que la demande augmente. Avec mon collègue, on a déjà des photos et des t-shirts. C'est ça qu'ils veulent surtout les touristes.
Une étude a montré que Nelson Mandela serait la marque la plus connue dans le monde après Coca-Cola. Mais selon plusieurs experts comme Jeremy Sampson, il est pourtant impossible d'estimer sa valeur.
I think he's priceless.
Je pense qu'il n'a pas de prix. Il y a des marques dans le monde comme Coca-Cola pour lesquelles on peut déterminer la valeur financière. Mandela ajoute de la valeur de différentes manières. Mais quand il s'agit de l'aspect financier, je ne m'avancerai pas là-dessus. Une autre idée est que toute marque doit durer dans le temps. Par exemple, Coca-Cola a maintenant 126 ans. Quel que soit le nombre d'années durant lesquelles on souhaite que M. Mandela vive, il n'est pas éternel.
Beyond that, he won't.
Sur le plan juridique, seule la fondation Nelson Mandela détient aujourd'hui les droits pour l'utilisation de son nom et gère aussi toutes les marques qui s'y rapportent. Mais pour Bernard Ries, l'un des responsables de la fondation, à l'ère d'Internet, c'est de plus en plus difficile de protéger l'image du grand homme.
What we've done is identify the more gross.
Ce qu'on fait, c'est qu'on cible les cas les plus graves où son image est exploitée et qu'on prend des mesures à l'encontre des entreprises. Par exemple, en 2008, lorsqu'il a fêté ses 90 ans, Viagra a sorti une publicité disant « Nelson Mandela a 90 ans, nous avons 10 ans ». Alors, bien sûr, nous avons demandé son retrait, car c'était une offense et c'était inapproprié. Mais il y a tant de cas comme celui-ci qu'on ne peut pas tout contrôler. Ce que nous faisons, c'est un travail de moralisation, en persuadant les gens que Nelson Mandela n'a jamais voulu que son nom et son image soient utilisés à des fins commerciales. Ayez honte si vous l'exploitez. Et dans la plupart des cas, les gens acceptent de retirer leurs produits, mais je crois que c'est en train de changer. Et je crois qu'on va voir de plus en plus Mandela exploité comme un Che Guevara.
Bernard Ries, comme beaucoup d'autres, craignent qu'une fois que Mandela sera parti, le phénomène va encore prendre de l'ampleur, sous peine de galvauder le mythe Mandela et d'en faire qu'une simple marque. Sophie Ripstein à Johannesburg pour la Deutsche Welle.
Nelson Mandela, bring him back home to Soweto. I want to see him walking down the road.
Home, une chanson de Hugh Masekela et en quelque sorte l'hymne de la lutte pour la libération de Nelson Mandela. Et nous ne quittons pas l'Afrique du Sud, Marie-Ange, puisque le grand sujet africain cette semaine dans la presse allemande, c'est l'élection de Madame Nkosazana Dlamini-Zuma à la présidence de la Commission de l'Union africaine.
Médecin de profession, ministre et première femme à la tête de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma est aux yeux de Die Tageszeitung Zeitung la dame de fer de l'Afrique. Au sein de l'UA, il lui aura fallu surmonter une campagne électorale détestable, estime le journal. Ses adversaires, regroupés autour du président sortant, le Gabonais Jinping, affirmaient qu'elle n'était qu'un cheval de Troie du président Zuma visant à accélérer le bradage du continent. Ils en voulaient pour preuve la présence de Madame Dlamini-Zuma dans le conseil d'administration d'une banque. Cela attestait à leurs yeux que le grand capital l'avait dans sa poche. Il est tout à l'honneur de Madame Dlamini-Zuma, poursuit le journal, de ne pas s'être abaissée à ce niveau. Reste à savoir si elle pourra aussi rehausser le niveau de l'Union africaine. La Frankfurter Allgemeine Zeitung voit en Nkosazana Dlamini-Zuma l'une des femmes politiques les plus incommodes du continent. À 63 ans, cette Zoulou est le contraire de son prédécesseur Jinping, dont on dit qu'il aime plus le protocole que les résultats. Nkosazana Dlamini-Zuma est une femme qui veut des résultats. Son impatience est légendaire. Mais tout ce qu'elle touche ne s'est pas non plus transformé en or, estime le journal. La diplomatie discrète de l'Afrique du Sud envers le dictateur zimbabwéen Robert Mugabe a été son invention. Cela a valu de nombreuses critiques internationales à Pretoria, ce qui aurait pu laisser l'Afrique du Sud indifférente si cette diplomatie avait été couronnée de succès, or tel n'a pas été le cas.
Et puis tous les journaux, bien sûr, retracent la carrière de Nkosazana Dlamini-Zuma, une forte femme donc, combattante de la lutte anti-apartheid, membre de l'ANC et ancienne épouse de Jacob Zuma, dont elle est divorcée depuis 1998. Mais la presse évoque aussi les défis qui l'attendent.
Effectivement, et la Süddeutsche Zeitung, par exemple, relate qu'avant son élection, Nkosazana Dlamini-Zuma s'est vue poser la question suivante : comment procéderez-vous à la tête de l'UA si vous l'emportez ? Réponse : comme un docteur, d'abord poser le diagnostic, puis agir. Mais, poursuit le journal, la liste des patients est longue. Le chaos au Mali après le coup d'état militaire et la rébellion Touareg, la violence continue dans l'est du Congo, le conflit entre les deux Soudans. C'est précisément sur ces dossiers, souligne Die Welt, que la nouvelle chef de l'UA devra imprimer de nouvelles impulsions, ce qui ne sera pas simple. Outre les pays francophones, le Nigeria, le Kenya et l'Éthiopie ont voté contre la candidate de la première économie du continent. Mais dans l'immédiat, Nkosazana Dlamini-Zuma analysera la structure de son organisation. En janvier, précise Die Welt, l'UA a publié des chiffres affligeants. 324 postes, soit près de la moitié, étaient alors vacants au sein de l'organisation.
Vous avez cité le Mali, Marie-Ange. Parmi les gros dossiers en attente sur le bureau de la nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine, et la presse allemande insiste sur l'urgence de faire quelque chose pour sauver le nord de ce pays.
Et comme l'écrit la Süddeutsche Zeitung, avec chaque jour qui passe, la crise s'aggrave dans le nord du Mali. Environ 300 000 enfants ne peuvent plus aller à l'école. 175 enfants mineurs au moins ont été recrutés pour des troupes de combat. 8 filles ont été violées. Ces chiffres ont été présentés récemment par l'UNICEF et selon ses propres dires, ils ne sont qu'un mince aperçu de la réalité. Toutes les grandes villes du nord, poursuit le journal, sont maintenant sous le contrôle des islamistes. À Gundam, 90 personnes ont été fouettées après une manifestation contre la flagellation d'une femme non voilée. À la lumière de tels événements, la destruction de lieux saints à Tombouctou n'est qu'un crime parmi beaucoup d'autres, ou comme l'a formulé la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, une attaque contre la preuve physique que la paix et le dialogue sont possibles. De fait, fait, le Mali passait jusqu'à présent pour la patrie d'un islam pacifique et tolérant, outre la responsabilité morale. Il est donc dans l'intérêt de l'Europe et des États-Unis de stabiliser au plus vite la région, souligne encore le journal.
Et après le Mali, la presse revient aussi cette semaine sur les manifestations au Soudan. Selon l'hebdomadaire Die Zeit, le pouvoir du dictateur Omar el-Béchir commence à vaciller.
Et Omar el-Béchir, qui passait pour le parfait voyou international, écrit Die Zeit. Putschiste, islamiste, ancien protecteur d'Oussama Ben Laden et fauteur de guerre. Il n'y aura pas de printemps arabe au Soudan, on a cessé de répéter ces derniers mois le président soudanais. Renverser le régime, ajoutait-il, est aussi impossible que lécher son propre coude. Or, poursuit le journal, voilà que depuis 4 semaines, les rues de la capitale soudanaise résonnent de slogans comme « Abat la dictature militaire, Béchir dégage ». La répression n'y fait rien, les manifestations se poursuivent avec pour mot d'ordre, justement, « lèche ton coude ». Subitement, l'impossible est devenu imaginable. Après 23 ans de pouvoir, le régime s'effrite et avec lui aussi le système d'un islamisme autoritaire mais pendant longtemps très populaire. Un coup d'œil dans les caisses de l'État soudanais, souligne le journal, suffit pour comprendre les causes aiguës de cet effritement du pouvoir. L'année budgétaire en cours affiche un déficit de 2,5 milliards. L'armée et l'appareil sécuritaire engloutissent 80% du budget et comme ils sont touchable, le gouvernement a annoncé récemment à la population des mesures d'austérité draconiennes.
Afropresse, et c'est déjà la fin de ce magazine Afrique 7 jours, présenté par Marie-Ange Piron et Fréjus Quenhomme. Merci à tous de nous avoir suivis.